Cet enregistrement audio est réalisé dans le cadre du certificat d'études ouvertes en éducation en situation d'urgence. C'est une formation de l'Université de Genève, Suisse, réalisée en collaboration avec l'Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger.
Évidemment, je parle d'homme avec grand H, de la personne humaine, de l'homme, de la femme. C'est cette conception, c'est ce concept d'homme, cette conception qui vaut. Il n'y a pas de différence entre femme, homme, en tout cas dans les caractéristiques humaines. Il s'agit de l'homme, femme, de la personne est conçue comme étant un concentré de plusieurs choses. Et que il y a deux possibilités en lui, deux grandes possibilités en lui. La possibilité de faire du bien et évidemment la tendance à faire du mal. Et donc, éduquer, c'est encadrer pour que le bien domine en lui le mal. C'est ce que je voulais dire. Et c'est la raison de la famille. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Amadou Seibou Adamou. Je suis enseignant-chercheur en sciences du langage et en didactique du français à l'École normale supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, au Niger. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'oralité en tant que moyen dans l'innovation dans les situations en situation d'urgence. Alors, pourquoi l'oralité? Parce que, d'abord, nous sommes dans une culture, ce qu'on appelait une civilisation, qui relève essentiellement de l'oralité. Non pas que notre civilisation ferme les yeux sur l'écriture, ou même n'en possède pas, non. C'est que la société nigérienne et africaine en général est à privilégier l'oralité. Jusqu'aujourd'hui encore, tout se dit. Tout se fait par le dire. L'oralité est donc comprise comme l'autre forme d'écriture, c'est-à-dire en tant que parole vive, comme l'autre moyen d'inscrire, quand je dis inscrire, je parle de fixation, de mémorisation et même de transmission, et de production de connaissances, c'est-à-dire de tout ce qui est savoir, mais aussi de tout ce qui est savoir-faire et aussi de tout ce qui est loi de la communauté. Ce qui fait que la constitution et l'expression de la pensée et des représentations de la plupart des peuples africains utilisant l'oralité soit intimement liée à ce mode de vie. Donc, tout ce qui est représentation, tout ce qui est expression de la pensée relève en général encore de l'oralité, malgré la présence de l'écriture. Une autre chose, c'est que l'expression donc, de ces choses, de cette pensée, de la vie, a des traits et des procédés pertinents et spécifiques qui la caractérisent. C'est normal puisque cette expression, l'oralité, cherche, entre autres, à fixer les choses. Donc, il faudrait qu'elle se donne des moyens, des procédés pour pouvoir arriver à ses fins. Ce n'est pas le fait du hasard, en fait. Mais cela tient compte d'une certaine contrainte née du contexte historique oral. Parce que, justement, la pensée orale est proférée de vive voix dans des situations réelle de communication et dans une sorte de trame temporelle qui le situe sur la durée. Alors, ce qui est important ici à retenir, c'est que l'oralité et tout ce qui est pensé de l'oralité, tout ce qui est dire dans ces cultures orales, passe par une pédagogie différenciée. Cette pédagogie est fondée sur le principe de l'étagement, c'est-à-dire de la progressivité des différents paliers du savoir. Il y a donc des paliers du savoir. Et chaque palier, à chaque palier correspond des techniques, correspondent, pardon, des techniques qui peuvent amener les apprenants à apprendre, à s'approprier les savoirs liés à leur, soit l'âge, soit leur identité sociale ou professionnelle. Ça veut dire que l'oralité a sa logique. Cette logique, il faut bien la comprendre, elle n'est pas subordonnée à celle de l'écriture que nous utilisons encore à l'école. Elle est parallèle à cette, à l'écriture, à cette civilisation de l'écriture, mais elle est surtout complémentaire de cette civilisation de l'écriture. Et c'est pourquoi on ne doit pas l'exclure dans les situations didactiques, dans les situations scolaires, en particulier dans les situations en éducation d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les apprenants qui sont dans des situations, dans des contraintes, dans des situations difficiles, eh bien, ils ont connu un certain nombre de choses, notamment un déplacement, notamment une perte de quelque chose qui leur était cher, leur culture, peut-être même de leur famille. Eh bien, ils se retrouvent quelque part qui n'est pas chez eux et où il faut vivre. Eh bien, la réalité est que c'est difficile, cette nouvelle vie. Il faut se réadapter, il faut s'adapter au nouveau contexte, peut-être aux nouvelles, aux personnes que l'on découvre, aux cultures que l'on découvre, et cela ne se fait pas de façon gratuite, facile. Et c'est pourquoi dans les situations d'urgence, il faudrait créer des conditions pour que les personnes intéressées ne soient pas forcément coupées de leur culture. Et je répète que cette culture relève de l'oralité. Alors, évidemment, c'est par niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour les enfants, par exemple, il faudrait les réinstaller d'abord dans leur langue, créer, maintenir le petit groupe de façon que ces personnes continuent à parler leur langue, c'est-à-dire continuent à vivre leur culture à travers la parole, mais aussi que ces personnes, qu'on leur fasse créer les conditions pour qu'ils puissent remémorer leur histoire, pour qu'ils puissent redire qui ils sont, pour qu'ils puissent reconstituer leur identité. Or, l'identité de l'oralité est essentiellement composée de trois choses. La première, c'est l'individualité. L'oralité, il est vrai, hein, que les sociétés africaines sont des sociétés communautaires. Mais ça n'exclut pas, ça n'efface pas l'individualité. En Afrique, de façon générale, au Niger en particulier, on considère que chaque personne autonome et que chaque personne est le concentré de plusieurs choses, notamment l'aspect physique, l'aspect psychologique, l'aspect spirituel, etc., etc. Et une personne a des potentialités infinies, infinies. Et surtout, l'individu a des possibilités, deux possibilités contradictoires à lui. La première possibilité, c'est de faire du bien. La deuxième, évidemment, la seconde, c'est le penchant pour le mal. Et c'est pourquoi il y a un deuxième niveau qui doit l'aider à canaliser ce potentiel, c'est la famille. La famille encadre avec une distribution des rôles, le père, la mère, etc. Alors, et un troisième niveau d'encadrement, c'est la société tout entière. Et ce qui fait que dans notre conception des choses, une personne appartient à tout le monde. Une personne est tout, ce tout doit être encadré et ce tout relève d'un ensemble. Et donc, pour éduquer, il faudrait tenir compte de ces trois niveaux. C'est pourquoi, en situation d'urgence, où les personnes sont troublées, où quelque chose est touché en eux, dans leur profondeur, dans leur encadrement, il faudrait essayer de reconstituer ces différents niveaux de formation. Pour les enfants, il faudrait peut-être mettre en place une situation didactique qui leur permet, par exemple, de chanter. Chanter pour se défouler. Chanter pour être ensemble. De compter. De dire des contes. Parce que le conte, bien sûr, est futile. Ça permet d'amuser. Mais le conte est utile parce que ça éduque. Le conte comporte la loi. Il faudrait enseigner la loi par le conte, par le divertissement aux enfants. Devenus adolescents, il faudrait leur apprendre d'autres choses. Par exemple, la connaissance de leur histoire à travers les légendes, à travers l'histoire de leur village, à travers les mythes. Et devenus adultes, où ils vont entrer dans la vie, on leur apprend des textes plus complexes, comme, évidemment, on approfondit les mythes, mais des textes comme l'épopée. L'épopée qui donne des modèles d'hommes, des modèles de vie, des représentations, des personnes représentatives d'un certain nombre de valeurs. Et donc, à travers le jeu, à travers la parole, on construit l'homme. Il faudrait évidemment que les curricula tiennent compte de cela pour remettre les personnes en situation difficile dans ce contexte-là où ils ont la plupart vécu parce que ils sont ici pour leur écrasante majorité du monde rural. Donc, c'est dire que les traditions orales en Afrique ont des caractéristiques sur le plan formel et sur le plan de la profondeur de la connaissance. Hein, et il faudrait donc essayer d'adapter ces éléments de la tradition orale aux situations et aux personnes apprenantes en situation d'urgence. Il y a, j'oubliais de dire, pour la deuxième étape, l'adolescence, les codes ésotériques à travers le système d'initiation, initier les personnes dans une culture de l'oralité, c'est leur apprendre ce qu'ils sont réellement dans leur physique, mais aussi ce qu'ils représentent dans la société. Et c'est au sortir de cette initiation qu'ils deviennent des hommes, qu'ils voient leur responsabilité sociale pour pouvoir l'assumer. Pour me résumer, c'est que la tradition orale réunit tous les genres d'expression. Donc, on pourrait essayer de les recenser, de les catégoriser et de les inscrire dans le programme de formation des personnes en situation d'urgence. Selon la catégorie d'âge, selon la fragilité aussi des personnes, eh bien, il y a un certain nombre de textes, un certain nombre d'activités orales qu'il faudrait leur proposer. Par exemple, la tradition orale réunit tous les genres d'expression, les textes historiques, par exemple les généalogies, les chroniques, les récits historiques, les textes littéraires, la poésie, les textes épiques, pastoraux, lyriques, les contes, les fables, les épopées, les légendes, les proverbes, qui sont les genres brefs, les maximes, les devises, etc. Les textes religieux, les textes mythiques et les textes initiatiques. Donc, etc. Ces textes sont, je disais, catégorisés selon les trois niveaux que je présentais tantôt. Alors, ces connaissances qui sont contenues dans ces genres se présentent comme des traditions populaires. Ce sont à la fois des traditions érudites, ce sont des histoires détaillées, par exemple, d'une dynastie, d'un peuple ou même d'une famille, et ça couvre l'histoire des personnes, de leur village, de leur royaume, de leur région, etc. Et donc, ces traditions de société étatique s'opposent, ces traditions s'opposent seules des sociétés sans État. Et actuellement, c'est finalement ce qu'on est en train de vivre. Les situations que vivent les personnes qui sont en situation difficile, c'est pratiquement des situations sans État, où manquent généralement des infrastructures. Il faudrait donc reconstituer leur contexte, essayer de reconstituer leur contexte d'origine, en les écoutant d'abord, reconstruisant donc leurs valeurs à partir des cultures qu'ils véhiculent et en inscrivant ces valeurs-là dans un programme scolaire qui accompagnerait le programme scolaire normal. Je voudrais terminer par la langue. Elle est fondamentale, évidemment, pour traduire ce savoir-faire et cette vie éthique. Pour les personnes qui viennent d'ailleurs en situation d'urgence, elles rencontreront certainement des personnes qui ne parlent pas la même langue. Il serait peut-être judicieux de les garder en communauté, s'ils sont constitués d'un certain nombre de personnes, les encourager à parler leur langue d'abord, les initier les apprentissages dans leur langue, et ensuite programmer le contact avec les autres personnes, avec les autres cultures, avec les autres langues. que les langues se côtoient, se respectent, avant d'amener chacun vers la langue véhiculaire qui pourrait, dans le contexte nigérien, qui pourrait être le Hausa ou le Zarma selon les régions. Et plus tard, ils vont normaliser vers la langue française, qui est la langue officielle et qui est la langue d'enseignement. Voilà. En gros, ce que contient cette oralité et comment on peut la didactiser. Évidemment, je ne suis pas entré dans de forts détails. Cela est un travail pédagogique, c'est un travail technique qui demande une élaboration, qui demande un agencement autour d'objectifs, autour de compétences pour des finalités précises qui sont liées au contexte et aux besoins des apprenants. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.